I'd like to bring a special greeting today to all of those who are going to be part of this wonderful conference coming up in Paris in 2014. I'm excited about being part of the team that will be coming to minister to you, and I believe that God will stir your heart to love Jesus Christ more than you ever have before. That's what I'm believing for. The Lord's going to bless, and He's going to strengthen. He's going to set people free. I believe He's going to give many a new vision for ministry into the future, an understanding of some scriptural things that perhaps have not been as understood as they should be in our generation. I so look forward to being with you. I believe it's going to be a time of great rejoicing together. God bless you. I'll see you then.
Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous retournons ce matin, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6e aujourd'hui. Jean, chapitre 6, à partir du verset 1er, pour lire un texte que nous connaissons bien. D'ailleurs, savez-vous que c'est l'un des rares textes que l'on retrouve dans les quatre évangiles pour dire combien il est important dans ce qu'il veut nous enseigner. Jean chapitre 6, verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Et une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Mais les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Or, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Ben, écoute, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour autant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Alors, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Et Jésus prit les pains, et il rendit grâce. Et il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Et ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Avez-vous l'impression, parfois, d'être comme suivi par des foules ? Laissez-moi préciser, des foules de défis professionnels, des foules de défis familiaux, parfois même des foules de défis spirituels, des foules de défis qui parfois deviennent des foules de problèmes. Et en plus, des foules de problèmes qui ont un ventre creux et qui crient famine. Et derrière nous, nous avons l'impression que ça se presse. Ça vous arrive ? Alors parfois, nous trouvons très utile de feindre de les ignorer, comme pour mieux nous concentrer sur Jésus. Moi, c'est Jésus. Et puis, derrière moi, il y a une foule de toutes sortes de choses, mais tant que c'est derrière moi, je ne les vois pas. Les disciples étaient avec Jésus, tout au nord du lac de Galilée, dans un lieu que l'évangéliste Marc qualifie de désert. Et Ils s'étaient retrouvés là tous ensemble pour partager un moment de convivialité, d'intimité avec Jésus, assis sur une montagne. Seulement, il leur était difficile de rester seuls, parce qu'il y avait là, dans cette contrée de Galilée, des multitudes d'hommes et de femmes qui avaient entendu parler de Jésus et qui même l'avaient vu accomplir des miracles. Et partout où Jésus allait, ils voulaient le suivre, espérant voir quelques nouveaux prodiges. Et alors que les disciples auraient donc voulu simplement rester avec Jésus, qu'il est bon, Seigneur, qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer ensemble, eh bien, il leur était malgré tout difficile d'ignorer que derrière eux, il y avait une foule affamée. Et si il nous arrive de vouloir les ignorer trop longtemps, nous finirons par entendre le grognement des ventres, ou nous finirons par entendre Jésus, comme il le fit avec ses disciples, nous poser cette question. Eh, que vas-tu faire avec la foule qui est derrière toi ? La foule, Seigneur, quelle foule ? Oui, cette foule-là qui te suit. Tu peux feindre de l'ignorer, mais Jésus te dit, moi, je l'ai vu. Et tu ne peux pas simplement lui tourner le dos. La vie chrétienne, ce n'est pas tourner le dos à nos foules en disant, Seigneur, toi, tu t'en occupes, moi, je reste centré sur toi. La puissance de la vie chrétienne, c'est de lever les yeux sur la foule avec Jésus et de faire face à ce qui parfois nous presse, nous oppresse, qui réclame à manger. Et nous dirions, Seigneur, mais qu'il se disperse. Mais Jésus nous dit, non, tu dois t'en occuper. Et c'est ce que Jésus fit ce jour-là avec les disciples. Eux, ils étaient partis pour passer une bonne journée avec le Seigneur, ensemble sur la montagne, un gentil pique-nique. Mais Jésus les ramena à la réalité. Il y a là des hommes et des femmes qui ont besoin de vous. Il y a là, mes frères et sœurs, autour de nous, des foules affamées. Des foules affamées de vérité, de justice et de grâce. Et nous ne pouvons pas nous contenter de dire « L'essentiel de ma vie, Seigneur, c'est toi », tout en continuant de leur tourner le dos. Si nous faisons comme cela, Jésus nous dira « Regarde, lève les yeux, il y a autour de toi des foules qui ont faim. » Vous connaissez très bien ce passage, et ce n'est certainement pas la première prédication, si vous êtes fidèle à l'Église, que ce soit celle-ci ou une autre que vous entendez sur la multiplication des pains et le gamin et ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons. Et ce matin, je voudrais donc essayer de m'arrêter avec vous sur au moins 4 choses. 4 choses qui nous parlent de la manière de faire face à nos foules. La première, c'est donc de considérer que lorsque nous voulons leur tourner le dos, Jésus nous appelle à les regarder en face. La deuxième nous amène à considérer que Jésus est celui qui est prêt à pourvoir à nos besoins lorsque nous reconnaissons nos limites. Nous verrons aussi que Jésus est celui qui est prêt à pourvoir à nos besoins par les choses que nous mettons dans ses mains. Et nous verrons enfin que Jésus est celui qui est prêt à pourvoir à nos besoins par les choses qu'il remet dans nos mains. Les disciples auraient voulu passer cette journée avec Jésus simplement seul à seul, en tête à tête, mais il n'en a pas été ainsi. Et nous-mêmes, nous devons considérer que le Seigneur ne va pas ignorer, ne va pas simplement balayer du revers de la main ces choses qui parfois nous oppressent. Mais il veut nous amener à y faire face. Jésus a dit à un moment, où achèterons-nous des pains pour qu'ils puissent manger ? Il venait de lever les yeux sur la foule. En faisant cela, le Seigneur leur disait, c'est vous qui allez devoir agir. Ce n'est pas simplement moi qui vais faire. C'est vous qui allez agir. Et je veux revenir sur cette idée encore une fois. Quand je vous vois tous, je me réjouis. Je vois le premier culte, je me réjouis. Je vois le second culte, je me réjouis. Je vois le troisième culte, je me réjouis. Mais en même temps, je me dis, Seigneur, que ferons-nous ? Chacun des cultes est prêt, est plein. Fin mai, nous sommes plus que pleins. Qu'est-ce qui arrivera lorsque nous serons en septembre ? Allons-nous, Seigneur, simplement continuer à venir ici à l'Assemblée, à nous retrouver ensemble, ou même dans nos temps de prière personnelle, en étant centrés sur toi, Seigneur, que c'est bon d'être avec toi sur la montagne, que c'est bon, Seigneur, de passer du temps avec toi, tout en ignorant que nous laissons derrière nous des foules qui ont faim de justice et de vérité. Mes frères et sœurs, si je dis cela, c'est parce que nous ne pouvons pas simplement continuer à vivre notre vie chrétienne dans cette assemblée en feignant d'ignorer qu'aujourd'hui, nous ne pourrons plus grandir. Nous ne pouvons pas continuer à vivre notre vie chrétienne en nous disant, bon, de toute façon, il y a les pasteurs et puis il y a ceux qui servent, eux, ils vont s'occuper de cela. Mais c'est risqué de les amener à l'épuisement. Allons-nous constamment devoir tirer sur la corde ? Parce que la plupart d'entre nous, nous avons simplement les yeux fixés sur Jésus, oubliant tout ce qu'il y a en arrière. Ou allons-nous nous dire, Seigneur, il y a une foule affamée. Il va bien falloir que quelque chose se passe. Il va bien falloir, Seigneur mon Dieu, que nous rentrions dans une autre dimension de notre vie d'Église. Comment parler d'évangélisation ? Comment parler de garder cette ville de Paris, de gagner cette ville de Paris si simplement nous restons là où nous sommes ? Nous ne pouvons pas simplement rester sur la montagne quand dans les plaines, il y a des hommes et des femmes qui nous pressent d'intervenir. Je pense que les disciples ont été profondément embêtés quand Jésus les a mis face à ce défi. Quand Jésus leur a dit, « Bien maintenant, vous allez lever les yeux. » Rappelez-vous déjà dans Jean 4, ce sera un des thèmes de prédication que j'aurai à la conférence, Jésus, à un moment, va dire qu'il lève les yeux vers la moisson qui blanchit déjà. Les disciples pouvaient se demander, « Mais c'est quoi cette moisson ?» Eh bien maintenant, quelque temps plus tard, en Galilée, Jésus levait les yeux vers la foule. Et la foule était là, la moisson était là. Elle était prête à engranger. Mais Jésus leur avait dit aussi, je vous envoie moissonner. Ce n'est pas le Seigneur qui allait simplement s'occuper tout seul, comme il l'avait fait jusqu'à présent, des besoins qui étaient là. C'était maintenant à ses disciples de prendre le relais. Mais les disciples étaient bien embêtés. Tant que la foule était derrière dans leur dos, c'était une foule. Et vous savez, quand on envisage un problème dans sa généralité, eh bien, ma foi, c'est un problème. On trouvera peut-être une solution. Mais quand on regarde à la situation telle qu'elle est, quand on regarde aux foules telles qu'elles sont, ce n'est plus une foule, mais ce sont des multitudes. Quand on regarde aux défis qui sont les nôtres dans notre vie familiale, professionnelle, ou dans notre vie d'Église, quand on accepte de lever les yeux sur cela, on comprend que nous n'avons pas simplement un seul problème, mais une multitude de problèmes. Et c'est là qu'on se dit, bien, les choses ne s'améliorent pas. Comment allons-nous traiter la chose ? Et Jésus nous implique, comme il a impliqué ses disciples. Où achèterons-nous ? Non pas « voilà ce que je vais faire », mais « où achèterons-nous ? » Face à ton défi, Jésus t'implique et il te pose cette question. Ensemble, nous allons faire quelque chose. Il ne nous dit pas simplement « tu vas faire quelque chose », il ne nous dit pas « je vais faire quelque chose », mais qu'allons-nous faire ensemble ? Cette question est à la fois un défi, mais c'est malgré tout un encouragement. Jésus est avec nous. Jésus est avec toi. dans les choses qui t'oppressent, dans les choses que tu as peut-être laissées dans ton dos, Jésus est prêt à agir avec toi. Tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls face à cette foule, face à ces multitudes. Philippe était le gars du coin. En effet, l'évangéliste Marc nous dit que cette scène s'est déroulée dans le nord du lac de Galilée, donc à Bethsaïda, et Philippe était de Bethsaïda. Alors Philippe devait peut-être encore plus que les autres se sentir concerné par la situation. Il y avait certainement là, dans cette foule, pas mal de gens qu'il connaissait, et maintenant il ne pouvait pas les laisser ventre creux. Alors, il s'est peut-être rapproché de Jésus à un moment, et on note que c'est à lui que Jésus a adressé personnellement la question. Il s'est tourné vers Philippe. Hey, « Hé, Philippe, toi qui es du coin, dis donc, où allons-nous acheter les pains pour nourrir toute la foule ?» Il y avait un brin de provocation dans ce que Jésus a dit là. Le texte nous dit qu'il l'a fait pour l'éprouver. Il savait que la question allait dépasser Philippe, mais bon, elle le concernait. Il a dit ça pour l'éprouver, pour le provoquer, parce qu'il devait aussi connaître le caractère de Philippe. Il savait comment Philippe allait réagir. Vous savez, le Seigneur, quand il nous pose des questions, des fois, il sait comment nous allons réagir. Et il a posé cette question à Philippe, non pas pour ridiculiser Philippe, parce qu'il savait fortement que Philippe aurait la mauvaise réponse, mais il a fait ça pour nous enseigner ainsi. Et je vais vous dire, je me retrouve beaucoup dans la réponse de Philippe. Philippe était certainement un matheux. Quand il pensait, il calculait. Ça vous arrive ? Êtes-vous de ceux que lorsque vous pensez, vous calculez, moi c'est ce que je fais. Je pense, mais je calcule. C'est peut-être une déformation familiale, je ne sais pas, un héritage qui est là, génétique. Et Philippe, donc, titillé par le Seigneur, il en allait maintenant de sa réputation de l'homme de l'étape. Il fallait absolument qu'il trouve une solution. Donc, il a fait ce qu'il savait faire, calculer. Philippe, c'est monsieur, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Bon, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais il y a du monde. Beaucoup de monde, plusieurs milliers. Les copains disent même qu'ils sont peut-être là, plus de 5000 hommes, peut-être même plus. Il y a les gamins, il y a les familles, il y a tout le monde qui est là. Waouh, il y a vraiment beaucoup de foule. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se contenter du minimum, allez, du pain. Mettons une baguette, on va prendre une baguette. Bon, allez, on va prendre une baguette pour deux personnes, parce que s'il y a que du pain, quand même, il va falloir les nourrir. Une baguette pour deux personnes. Il y a à peu près 5, 6 000, 7 000 personnes, 10 000 personnes. Bon, allez, on va prendre 6, 7 000 baguettes. Mais qui va me faire 6, 7 000 baguettes ? 6, 7 000 baguettes. À combien la baguette dans le coin ? 1 euro. Bon, 6, 7 000, j'espère qu'il va me faire un bon rabais. On tirait au moins 40 centimes. Donc 60 centimes de baguette multiplié par 7 000 baguettes. Waouh, ça fait 4, 5, 6, ouais, mettons, allez, je n'ai pas plus, 10 000, 7, 8, 10 000 euros. 10 000 euros pour une demi-baguette par personne. 10 000 euros, mais c'est énorme! C'est plusieurs mois de salaire! 10 000 euros pour une demi-baguette! Mais avec ça, ils ne vont jamais être calés en plus! Et mettre autant d'argent, même si on s'y mettait tous ensemble, à quoi ça serait vraiment ridicule de dépenser tant d'argent pour si peu au bout du compte. Et Philippe en arrive donc à cette situation, il va se tourner vers le Seigneur. Ben écoute, vraiment, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais tu vois, j'arrive pas. Seigneur, j'ai beau faire tous mes calculs, mais même avec tout l'argent qu'on y mettrait, 200 deniers, 200 journées de travail, au bout du compte, tu aurais tellement peu, une demi-baguette par personne. Ça ne vaut même pas le coup de dépenser tout cet argent. Philippe nous ressemble, Philippe me ressemble. Combien de fois ai-je procédé comme lui ? Essayant de logiquement mettre en place toutes les données, essayant de les assembler, de les additionner, les retrancher, les multiplier ensemble, essayant, s'il faut, de faire des combinaisons, des permutations, essayant de trouver la bonne solution. Mais au bout du compte, n'arrivant jamais à la combinaison qui m'intéresse et me retrouvant toujours face à un défi. Alors on calcule et on recalcule et on transpire et parfois même on agonise. Seigneur, j'arrive pas, c'est terrible. Et puis on finit même par abandonner en disant, Seigneur, j'ai tout essayé, mais il n'y a rien qui fonctionne. Et Philippe en était arrivé à ce point-là. Et de lui dire, Seigneur, mais j'ai fait mon mieux, tu vois, j'ai fait mon mieux, j'ai bien calculé, je me suis pas trompé dans mes calculs, tu vois, Seigneur, mais ça marche pas. Et si on le faisait, ça serait vraiment une perte d'argent, ça serait stupide de faire ça. J'ai fait mon mieux, mais au moins j'ai essayé. Je vais vous dire, on ne fait jamais son mieux tant qu'on n'a pas impliqué Jésus dans notre réflexion. Parce que le problème de Philippe était là. Philippe a évalué la situation d'après ses ressources. Il a évalué la situation d'après ses capacités. Et trop souvent, c'est ce que nous faisons. Nous sommes face à un défi et nous l'évaluons d'après ce que nous savons faire, d'après ce que cela coûterait, d'après les ressources que nous avons. Et nous disons, Seigneur, nous sommes trop courts. Si nous considérons l'évangélisation de cette ville de Paris, nous allons dire, Seigneur, combien nous faudrait-il? Voulez-vous que je vous parle franchement? Au point où nous en sommes, il nous faudrait une salle de 1000 places. Savez-vous combien coûte une salle de 1000 places, ne serait-ce qu'une journée, un dimanche? Le dimanche sur Paris, 7000 euros. Multiplié par 52, ça fait plus de 350 000 euros pour une salle le dimanche. Ça en fait des mois de salaire. Et on se dit, Seigneur, mais 1000 places, quand il y a 2 millions d'habitants rien que sur Paris, et tout ce qu'on dépense pour si peu. Je peux vous dire, j'ai calculé. J'en ai fait des calculs. J'ai beau les passer dans tous les sens, j'ai jamais trouvé la bonne équation. J'ai jamais réussi à faire coïncider ce que nous avons avec ce qu'il nous faudrait. Et par moments, j'ai dit, Seigneur, j'abandonne. Mais le Seigneur vous apprend, comme il m'apprend toujours, que ce n'est pas d'après mes ressources que je dois évaluer la situation. Mais c'est d'après le Seigneur de l'abondance. Il me dit, Franck, comme Philippe, tu commets une erreur quand tu fais tes calculs d'après ce que tu as ou d'après ce qu'il faudrait, en oubliant de me mettre au milieu. Et quand on met le Seigneur au milieu, je vais vous dire, on ne calcule même plus, parce que c'est lui qui fait l'opération. Et c'est ce que le Seigneur voulait enseigner ce jour-là à Philippe. Non, ce n'est pas d'après tes ressources que tu dois évaluer la situation, mais d'après l'abondance de Jésus. Jésus est prêt à pourvoir à nos besoins, non pas par, à travers nos calculs, ce qu'il nous faudrait, mais il va pourvoir à nos besoins à travers ce que nous allons mettre dans ses mains. André était le meilleur ami de Philippe, mais André n'avait pas du tout le même caractère que Philippe. Philippe était donc « Monsieur, qu'est-ce qu'il nous faudrait ?» André, c'est « Monsieur, qu'est-ce que nous avons ?» Et peut-être après avoir entendu les calculs de Philippe et entendu Philippe dire qu'il faudrait presque 200 journées de travail, plus de 6 mois de boulot pour arriver à payer une demi-baguette, il s'est dit « Franchement, tant d'argent pour si peu, moi je signe pas, je vais aller voir ce que je peux trouver. » Alors, André s'en est allé parmi les gens qui étaient là. Et puis, il a trouvé quelque chose. Enfin, ce n'était pas la pêche miraculeuse. La seule chose qu'il a réussi à ramener dans ses filets, c'est un petit garçon. Brave petit bonhomme qui était là. Qui, dans son sac, avait 5 pains d'orge et 2 poissons. C'était peu, c'est évident. Et en plus, c'était pas terrible. parce que l'orge était considérée comme la moins noble des céréales. D'ailleurs, il est écrit dans Apocalypse, chapitre 6, verset 6, « Un denier pour une mesure de blé, un denier pour trois mesures d'orge. » Ce qui veut dire que l'orge vaut trois fois moins cher que le blé. Généralement, l'orge était réservée pour l'alimentation des animaux ou pour les plus pauvres. Et une galette d'orge ressemblait plutôt à un biscuit casse-dents qu'à un pain spécial, extra moelleux, extra large pour confectionner vos meilleurs sandwichs. Et donc, c'est ça qu'André a ramené son petit bonhomme et le sac dans lequel il y avait ses pains d'orge et ses poissons. Et quand il est arrivé là, quand même, il s'est dit, bon, c'est pas évident, qu'est-ce que je vais dire à tout le monde, là ? Alors, pour essayer de faire bonne figure, surtout devant le frangin, Pierre qui était à côté, ben écoute, j'ai trouvé mes pains, j'ai trouvé 5 pains d'orge, 2 poissons, mais évidemment, je sais que ça fait pas grand-chose, hein. Je sais que ça fait pas grand-chose. N'imaginez pas que lorsqu'André arrive avec le petit garçon, il est déjà conscient de ce que Jésus va faire. À mon avis, c'est plus par dépit, pour dire de ne pas rentrer bredouille, qu'il ramène le gamin, mais... Bon, voilà, j'ai 5 pains et attends de milliers de personnes. Mais André a fait quelque chose que Philippe n'a pas fait. André a amené quelque chose à Jésus. Il a ramené quelque chose vers Jésus. J'y vois pas une démarche de foi, parce qu'il n'avait pas du tout idée que Jésus allait faire un miracle. Mais il a au moins présenté quelque chose à Jésus. Et c'est ce qui compte. Inclure Jésus. Donner quelque chose à Jésus pour que Jésus fasse quelque chose. Je peux aussi saluer le petit bonhomme. Parce que lui, il avait toute sa nourriture qui était là. Ses 5 pains, 2 poissons, maman me les a donnés. Et toi, tu me demandes de te les donner pour les autres ? Ben, enfin, tu rigoles. Tu nourrir tout le monde avec ça ? Écoute, si t'as faim, je peux bien te donner un même pain, mais non, le petit garçon n'a pas fait ça. Il n'a pas eu un raisonnement égoïste. Ben, il a suivi André. Drôle de bonhomme, qui vient me demander mes 5 pains et mes 2 poissons. Réfléchissons si parfois nous adoptons la bonne attitude. Parce que mes frères et sœurs, ce que nous avons est parfois bien peu, a peu de valeur aux yeux du monde. Encore une fois, si je me remets au niveau de l'évangélisation de cette ville de Paris, nous pourrions dire, Seigneur, ce que nous avons, ce que nous sommes, c'est guère plus que 5 pains d'orge et 2 poissons. Et nous pourrions dire alors, Seigneur, autant les consommer pour nous-mêmes, autant les garder pour nous-mêmes, autant rester entre nous, puisque de toute façon, ça ne servira pas aux autres. C'est un raisonnement que l'on trouve souvent dans les églises. C'est pour ça que Jésus a salué la foi simple des enfants, qui sont prêts à donner ce qu'ils ont. Nous-mêmes, nous n'avons peut-être que ceci, quelques petits pains, nous n'avons que cette salle, nous n'avons que nous-mêmes, nous n'avons que nos petits moyens. Dieu nous permet déjà d'avoir cela. Mais si on regarde ne serait-ce qu'au 11e arrondissement ou à tout ce qu'il y a autour, sans parler en plus des banlieues, oh Seigneur, alors là, c'est sûr qu'on n'ira pas loin. Pour autant, ce que nous avons, c'est ce que le Seigneur désire. C'est ce que le Seigneur désire. Et c'est ce qu'il souhaite que nous puissions lui offrir. Car c'est là que nous découvrons cette loi spirituelle importante concernant les offrandes. Ce que nous donnons à Jésus, Jésus le transforme. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous donnons en manière, de manière absolue, mais c'est ce que nous donnons de manière relative. A priori, l'enfant n'avait pas donné beaucoup, comme la veuve n'avait pas donné beaucoup, mais ils avaient tout donné. Parce qu'ils avaient donné tout ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas donné quelque chose de grande qualité, des pains d'orge, et la veuve des petites pièces de cuivre. Mais Jésus n'a pas regardé à cela. Et il a accompli un miracle à travers la pauvreté des choses qui leur a été confiée. Ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas que nous lui donnons toute la qualité, tout le superflu que l'on pourrait trouver dans cette ville. Ce qu'il attend, c'est que nous lui donnons notre pauvreté. Seigneur, nous sommes pauvres, nous avons ce que nous avons, mais qu'est-ce que cela pour nourrir les foules qui sont autour de nous ? Et le Seigneur nous dit, ne regarde pas à cela. Moi, je considère ce qu'il y a dans ton cœur. Et si vous êtes prêt à me donner tout, tout ce que vous avez, alors j'accomplirai le miracle. Et c'est ce que donc ce gamin et André ont fait. Ils ont pris le peu qu'ils avaient et ils l'ont mis dans les mains du Seigneur. Et là, nous comprenons cette leçon, c'est que peu devient beaucoup lorsque tout cela est confié à Jésus. Mais jusqu'à présent, le miracle n'est pas encore accompli. Sauf que Jésus le voit déjà. André et le gamin lui donnent une corbeille, donc, et aussitôt que Jésus voit la corbeille, il voit le miracle. Il n'était seul qu'à voir le miracle. Les autres ne voyaient pas le miracle. Ils ne voyaient que 5 pains et 2 poissons. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cela ? Jésus, lui, voyait le miracle. Et il voyait tellement le miracle qu'il va donner des ordres à ses disciples pour préparer la foule à recevoir le miracle. Avant même de prendre les pains, vous pouvez regarder ça au verset 10, avant même de prendre les pains, avant même de prier, il nous est dit, cette parole de Jésus, « Faites-les asseoir. » Avant même d'avoir pris les pains, avant même d'avoir rendu grâce, d'avoir rompu les pains, il a dit à ses disciples, « Allez les faire asseoir. » Et là, il y a une grande leçon où Jésus nous montre qu'avant que le miracle s'accomplisse, nous devons préparer le miracle. Nous ne devons pas attendre que le miracle s'accomplisse pour recevoir et nous préparer à recevoir le miracle. Nous devons démontrer notre obéissance au Seigneur en nous préparant à le recevoir. Mais évidemment, pas une chose facile. Imaginez Pierre. Le Seigneur m'a dit d'aller faire asseoir les gens. Bon, heureusement, il y a de l'herbe, c'est inconfortable. Allez, vous allez vous asseoir en rangée, hein, vous allez bien vous asseoir. Là, par rangée de 50, de 100, vous vous asseyez bien. Et pourquoi on va s'asseoir ? On va s'occuper de vous. Et qu'est-ce que vous allez faire ? A priori, on va vous nourrir. Ah bon ? Vous allez nous nourrir ? Bon, écoute. Tais-toi, on verra bien. Tais-toi, assis-toi, tais-toi, bouge pas, mettez-vous comme il faut. Mais j'imagine Pierre. Qu'est-ce qu'il nous demande là, Jésus ? Tant qu'on leur disait rien, on n'était pas liés. Mais maintenant qu'on les fait asseoir, forcément, ils vont attendre. Jusqu'à présent, on a 5 pains et 2 poissons. Et Jésus nous a dit, les faire asseoir, qu'est-ce qu'il va nous faire encore ? C'est-à-dire, Pierre en avait déjà vu avec le Seigneur. L'eau transformée en vin, la pêche miraculeuse. Mais là, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Alors, la foule est donc assise et que le Seigneur nous donne une vision du miracle et qu'il nous donne de préparer le miracle. Pour que nous soyons prêts lorsque le miracle viendra. Nous devons faire en quelque sorte comme si le miracle était là. C'est pour ça que nous n'avons cessé d'avancer. Et c'est pour ça que je prie le Seigneur pour que, avant même que nous voyons le miracle, nous puissions faire le pas qui va nous conduire vers le miracle. Ça veut dire qu'il y a un moment, en tant qu'Église, nous allons devoir agir comme si le miracle était déjà là alors qu'il n'est pas là. Ça, c'est déstabilisant. C'est là que commence déjà, non pas la foi, mais l'obéissance. Et je vais vous dire, c'est très perturbant. Parce qu'on n'a pas les réponses, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais on avance, on obéit. Et puis, Jésus prit donc les pains. Il rendit grâce au Seigneur. Il les rompit. Et il commença à les distribuer. Les Bibles anciennes, notamment l'Osterwald ou les Bibles anglaises, ne traduisent pas ce verset exactement comme nous. Elles disent « Il les distribua aux disciples qui les distribuèrent à la foule. » C'est en accord avec ce qu'on trouve dans les autres évangiles. C'est-à-dire que Jésus n'a pas donné les pains et les poissons directement aux gens qui étaient là, ou les gens ne sont pas venus à lui, d'ailleurs ils étaient assis. Il est passé par ses disciples. Il a envoyé ses disciples nourrir la foule qu'ils avaient fait asseoir. Vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté exactement? Autrement dit, quand est-ce que le miracle s'est accompli? Est-ce qu'il s'accomplit au moment où Jésus leur distribue du poisson et des pains et il leur en donne? Et donc, ils partent tout heureux parce qu'ils ont les corbeilles pleines. Waouh, génial, Jésus a fait un miracle. Ou alors, est-ce que comme aux noces de Cana, ils vont devoir porter l'eau et c'est en versant l'eau qu'elle devient vin, c'est-à-dire qu'ils vont partir avec pas grand-chose de pas grand-chose parce que Jésus a dû rompre en 12 les 5 pains d'orge. C'est pas facile de rompre 5 en 12. Et en plus, ces poissons, ce qui fait qu'il n'y a vraiment rien, et ils partent avec ça au fond de leur corbeille. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Et voilà Pierre qui maintenant donc a sa corbeille. Il dit, le frangin, là, André, la prochaine fois qu'on parle ensemble, on va voir ça. Hein, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces bouts de pain et ces poissons? Et il s'approche de la première personne. Presque la Seine-Seine. Coupe un morceau. Tiens, je ne vais jamais tenir jusqu'au bout. Non, t'en auras pas plus, comme les autres. Non, tu mets pas ta main dedans, c'est moi qui sers. Comment tenir jusqu'au bout de la rangée? Et puis au bout de la rangée, j'arrive à commencer la deuxième. Deuxième. Et il arrive au bout de la deuxième rangée. Commence la troisième. Ouh, quelque chose se passe. J'en ai 4 rangées, mais si je fais mon calcul, j'en ai distribué plus que ce que j'aurais pu en prendre déjà au départ, dans ma corbeille. Il y a vraiment un truc qui se passe. Bon, écoute, tu peux en prendre un plus gros morceau. Tiens, je te donne ça. Je te donne un pain tout entier. Tu as faim? Ah, oh, tiens, costaud, vas-y, prends. Toi, le petit, prends encore, hein, parce que... Et c'est bizarre. Plus il en donne, plus il y en a. Plus il en donne, plus il y en a. Alors maintenant, c'est... Allez, je vais quand même revenir à la première rangée, parce qu'ils n'en ont pas eu assez. Tiens, reprends. Vas-y. Reprends, non, je suis plein, reprends, je te dis. Et il va aller de rangée en rangée. Je voudrais que vous compreniez l'excitation qu'il y a dans son cœur. Quelque chose est là, au point qu'il n'arrive même pas à se débarrasser de ses pains, de ses poissons. Mais qu'est-ce que j'en fais? Plus j'en donne, plus il y en a, ça va déborder. J'aurais voulu être là, j'aurais voulu vivre cet instant. C'est tellement exaltant de se sentir là, de sentir quoi? Le miracle de Dieu dans nos mains. Quelque chose se passe dans nos mains. Et c'est là que la foi grandit. Et plus il donne, et plus il y a. Et le miracle s'accomplit parce que Jésus remet dans nos mains. Ce qu'il remet dans nos mains est de la même nature que ce que nous lui avons confié. Mais nous lui avons abandonné en disant « Ce n'est plus à moi, c'est à toi. » Et maintenant, ça prend des proportions extraordinaires. Et j'imagine la joie qu'il a dû avoir. Et une fois qu'ils ont fini, tout le monde était rassasié. On est loin du « un peu » de Philippe. On est loin du « il n'y en aura pas pour tout le monde » d'André. Maintenant, il y en avait. Il y en avait même plus que ce qu'il n'en fallait. Quelqu'un a encore faim ? Non, c'est bon, Pierre. Durable ? Non, 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 vraiment pas. Tout le monde était rassasié. Et il en restait 12 corbeilles. Jean nous dit que ce miracle s'est accompli à Pâques. Ça nous rappelle que dans le désert, le Seigneur a donné son pain. Il a donné la manne. Mais Dieu avait dit à Israël qu'ils ne devaient en prendre une mesure que pour une journée. S'ils en prenaient davantage, ça s'infecterait. Dieu, dans le désert, avait donné ce qu'il suffisait. Mais Jésus donne en surabondance. Ça, c'est la grâce. Jésus a donné en surabondance pour qu'il en reste 12 corbeilles pleines encore. Et je veux finir par ce commentaire de Jean au verset 6 qui nous dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Lorsqu'il a posé la question à Philippe, Jésus savait ce qu'il allait faire. Avant même que Philippe lui donne une réponse, Jésus savait ce qu'il allait faire. Avant même qu'André trouve l'enfant avec ses pains et ses poissons, Jésus savait ce qu'il allait faire. Et je veux te dire, comme je veux me le dire, Jésus sait ce qu'il va faire. Jésus sait ce qu'il va faire pour la foule qui nous presse, cette foule affamée qui réclame notre intervention, mais nous ne savons pas comment la confronter. Jésus sait ce qu'il va faire. Pour l'avenir de cette église, Jésus sait ce qu'il va faire. Et je ne veux pas tourner le dos, mais je veux regarder le lieu ou le miracle que Jésus va accomplir. Seigneur, cette foule, ce n'est pas un problème. Cette foule, c'est le moyen par lequel le miracle va se réaliser. Tu sais ce que tu vas faire et je veux avancer avec toi. Seigneur, permets-nous d'abord tout simplement d'être obéissant, de ne pas regarder simplement que notre relation avec toi, en oubliant tout le reste, en te disant « bon, ça va bien finir par partir, ils vont bien se lasser. » Mais ils ont faim. Et la faim est tenace. Et Jésus nous dit « non, non, regarde à la foule. Oh, des fois, c'est ce qu'on ne veut pas. Non, 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 je ne veux pas regarder à ça. Je ne veux pas regarder à toutes ces choses, mais ne m'en parlez pas. Demain, c'est bon, lundi, ça reprend. Ils seront là. Aujourd'hui, je veux rester centré sur le Seigneur. » Je dis non. Tu as trop longtemps abordé la question de tes problèmes ou de tes défis ou de tes foules tout seul. Aujourd'hui, je te le dis, mets Jésus avec toi. Regarde avec toi. Regarde aujourd'hui, non pas simplement le Seigneur, mais regarde avec le Seigneur la foule qui t'oppresse. Dieu est capable d'un miracle. Et ce qui m'étonne avec le Seigneur, c'est qu'on ne sait pas d'où va venir le miracle. Il y avait Jésus pour savoir qu'il y avait un gamin là. Il a permis à André de le découvrir. Et nous, savons-nous d'où viendra le miracle? Savons-nous où est le gamin qui a les 5 pains et les 2 poissons? Il est là, peut-être à côté de toi, celui que Dieu utilisera. Vous savez, des fois, nous le regardons d'une manière négligente. Oh, je ne vais pas dire méprisante, mais négligente. Et Dieu nous dit, mais c'est là, dans la simplicité d'un cœur, que je vais réaliser quelque chose de grand. Seigneur, ce n'est pas par nos calculs, ce n'est pas par nos ressources, mais c'est par la simplicité d'un enfant que nous verrons ta gloire se manifester. Mon frère, ma sœur, attendons-nous à un miracle. Attendons-nous à la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies et dans notre Église. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes émerveillés par ce texte, par ce que tu veux nous enseigner dans ce merveilleux passage. Tu as accompli là quelque chose de grand, de bien plus grand encore que ce que tu as fait dans le désert. Tu as accompli, Seigneur, avec ce peuple un miracle qui nous instruit encore aujourd'hui. Seigneur, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de notre Église, nous sentons des foules qui sont derrière nous. Et souvent, Seigneur, nous ne voulons pas les regarder, nous ne voulons pas, Seigneur, les voir telles qu'elles sont, parce que nous ressentons bien que nous n'avons pas, Seigneur, les moyens de répondre à cela. Mais Jésus, tu n'es pas celui qui nous dit « débrouille-toi », mais tu n'es pas celui non plus qui nous dit « ignore-les ». Tu es celui qui veut t'impliquer avec nous pour résoudre, Seigneur mon Dieu, les défis qui sont face à nous. Seigneur, nous avons trop calculé. Nous avons tout calculé, mais rien nous a amené à une solution. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions de nous montrer le petit enfant, de nous montrer, Seigneur, ce gamin qui n'a que 5 pains d'orge et 2 poissons, mais par lesquels tu es capable de faire un miracle. Où sont ces pains, Seigneur? Où sont ces poissons? Dans notre vie, comme dans l'Église. Seigneur, montre-nous-les, pour que nous puissions aller les chercher, afin que le miracle que tu as prévu s'accomplisse. Te prions dans le nom de Jésus de bénir encore nos vies. Te prions dans le nom de Jésus de bénir notre assemblée. Amen. Que Dieu vous bénisse dans sa grâce.